France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La post-vérité, nous savons ce que c'est. On l'a appris grâce à Trump, qui a presque inventé ce concept, la vérité alternative, et même entrée dans nos vies. La post-réalité, je parle sous le contrôle de l'un de nos invités, c'est l'étape donc d'après qui découle de la première. Quand la réalité ne se plie pas à nos désirs, alors on la tord. Par exemple, pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas, il suffit de ne plus publier les chiffres, voire de publier en revanche des faux plus vrais que nature. La question que l'on pose ce soir est de savoir si on n'est pas déjà passer à l'étape d'encore après, avec une intelligence artificielle dérégulée quand on ne sait plus discerner le réel de la réalité, même avec les meilleures intentions du monde. Parce que désormais, l'IA ne nous permet plus de faire la différence entre une fausse vidéo générée par l'IA et une vraie vidéo, entre une fausse voix générée par l'IA et une vraie voix. La confusion est partout. Quand on a un algorithme comme le mien sur Instagram et qu'on voit des labradors faire de la balançoire, ça ne change pas la face du monde. Mais quand on voit Giorgia Meloni qui parle avec son accent italien en français pour dire que la France s'enfonce, c'est un exemple récent, là c'est beaucoup plus grave. Et des exemples de ce type, il y en a des centaines aujourd'hui. Et vous aussi qui vous nous écoutez, vous posez la question, attends, est-ce que c'est de l'IA ça ce que je regarde ou pas? L'IA produit des vidéos devenues indétectables à l'œil nu, elle a même intégré des outils de vérification. Bref, est-ce qu'on est foutu? C'est notre question du jour. Foutu quand on regarde une vidéo, quand on regarde un profil sur internet, quand on écoute une musique dont on ne sait plus si elle vient de musicien ou d'un logiciel accessible à tous. Est-ce qu'il est encore temps? Vous allez nous aider avec vos doutes, avec les pièges dans lesquels peut-être vous êtes déjà tombé, avec les méthodes aussi pour détecter ça. Peut-être que nous allons essayer les uns les autres ce soir de rester dans le réel. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Alors vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci beaucoup de prendre ma question et puis merci pour vos émissions. Enfin, je ne sais pas si je dis merci à une vraie personne ou à une IA d'ailleurs, hein, au passage.
Mais bon,
prenons le risque. Prenons le risque.
Allez-y.
Moi, je me pose la question de ce que va être le rôle de l'IA dans la géopolitique. Parce que comme vous l'avez dit, s'il y a un deepfake qui nous montre par exemple la mort de Poutine ou celle de Zelensky ou de Trump ou ce que je sais, si tout le monde se met à y croire, ou bien alors s'ils meurent pour de vrai mais qu'on les voit toujours vivants, bah on sait que la guerre s'est fait beaucoup à travers les images et les récits, hein, ça depuis la nuit des temps, mais ça a toujours existé. Mais il semble qu'aujourd'hui, bah, l'histoire avec un grand H, ça devient plus que jamais un truc virtuel, mais par contre une arme bien réelle en même temps pour bien des choses. Donc moi, ce que j'en retiens de tout ça, c'est que je vais m'intéresser aux vrais gens qui sont autour de chez moi. Voilà. Et puis, je ne sais pas si je vais écouter votre émission pour avoir la réponse.
Ah bah si, quand même. Bah si, s'il vous plaît, faisons un effort. Merci beaucoup, en tout cas, Laure, pour votre question, pour tenter de répondre à toutes ces questions ensemble ce soir autour de la table. Il y a Julie Charpentras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef en charge de l'investigation numérique à l'AFP. Vous nous raconterez comment vous faites diverses vérifications. Il y a Gérard Brunner qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à Sorbonne Université. Vous avez écrit très récemment à l'assaut du réel aux presses universitaires de France. Le bandeau de l'éditeur disait « vers la post-réalité » avec un point d'interrogation.
Oui.
On verra jusqu'à quel point on a déjà enlevé le point d'interrogation entre la parution et maintenant ou pas. Stéphane Jourdain, bonsoir, vous aussi.
Bonsoir.
Le spécialiste IA France Inter et numérique, c'est vous. La tech la première le jeudi, ici même, c'est vous aussi. Et c'est vous aussi d'ailleurs qui nous avez donné envie de faire ce sujet-là. J'ai quand même envie de commencer avec le regard du sociologue là-dessus, Gérald Brunner. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que là, on en est même au stade encore supérieur avec l'heure, avec au fond, on doute de tout aujourd'hui. Et la question, c'est, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que finalement, la réaction de l'heure, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait? Ou est-ce que c'est ça, le monde de demain? Ça veut dire qu'on ne croit plus ce que l'on voit à aucun moment.
Bah, le doute n'est pas mauvais en soi, au contraire, c'est le début de l'esprit critique et on a raison de douter, on a même droit de douter en démocratie. Souvent, comme tous les droits, ça s'accompagne de devoirs, c'est-à-dire de méthodes. Et la profusion d'images dont nous ne savons plus, vous l'avez bien dit dans votre introduction, distinguer l'artificiel du naturel, c'est-à-dire le réel du fictionnel, cette profusion, elle va, à mon avis, surtout savonner la pente de ce que j'appelle à l'assaut du réel, donc le scepticisme opportuniste. Mmh. C'est-à-dire, puisque je ne peux plus distinguer le vrai du faux, alors il y a un paramètre qui va probablement s'imposer, c'est tout simplement mon désir, mon désir de croire ceci ou cela. Par exemple, si j'ai des préférences politiques à droite ou à gauche, et qu'un homme politique ou une femme politique que j'aime bien dit quelque chose de déplaisant, j'aurai tout loisir de me dire « Oh, c'est sans doute quelque chose qui est fabriqué par intelligence artificielle ». C'est ce que la littérature a nommé le dividende du menteur. C'est-à-dire, dans le monde que nous sommes en train de décrire, eh bien, les menteurs auront un avantage, parce qu'ils pourront toujours dire quand ils seront pris dans la main dans le sac, et ils commencent déjà à le faire, « Non, non, en fait, je n'ai déjà jamais dit ça, je n'ai jamais fait ça, c'est une production malveillante, bah, par exemple de puissance étrangère ». Et ceci dit, il y a une raison de le croire, parce que les puissances étrangères, on pense à la Russie, etc., elles sont très actives, d'où la question d'ailleurs très intéressante que votre auditrice a posée en introduction.
Mais est-ce que ça veut dire que l'IA désormais, c'est l'outil idéal de nos croyances hors du réel? Est-ce que c'est l'accélérateur de ces croyances éloignées du réel? Ou est-ce que c'est les deux, mon capitaine?
En tout cas, c'est l'accélérateur de la fragmentation de notre socle commun. C'est-à-dire que pour vivre en démocratie ou même en société, il faut qu'on soit d'accord sur les faits, sur les données, sur le réel, et se disputer sur l'interprétation de ces faits. Or, les IA vont largement contribuer à nous enfermer dans un monde irréel, mais qui correspond éventuellement à nos désirs. De sorte que nos discussions ne se feront plus sur l'interprétation des faits, mais sur les faits eux-mêmes. Ceux qui ne voudront pas croire au réchauffement climatique, ceux qui ne voudront pas croire à l'existence d'un virus, par exemple, en cas d'épidémie, auront peut-être plus de loisirs de le faire. Seulement, voilà, le réel continuera à exister et à un moment donné, il fait valoir ses droits et plus nous attendons pour discuter avec lui, plus la note elle est salée en général.
On reviendra sur cette idée effectivement d'un socle commun qui devient gazeux. Stéphane Jourdain, moi ce qui me frappe et c'est en partie ce que dit Laure, c'est qu'on en est arrivé à ce stade où c'est même à notre corps défendant. Parce qu'il y a eu une période où on savait ce qu'on voyait et on pouvait dire, je sais idéologiquement en fait ce que je suis en train de produire. Aujourd'hui j'ai l'impression que vraiment même à notre corps défendant, on tombe dans ces pièges-là.
Alors la question de Laure est incroyablement d'actualité puisque en ce moment même, il y a une vidéo très virale qui est en train de tourner sur Facebook. Emmanuel Macron s'en est plaint ce matin publiquement à Marseille. Une vidéo dans laquelle on voit une journaliste en plateau à Paris avec des hélicoptères dans le ciel. On voit la tour Eiffel derrière et elle annonce qu'un colonel français est en train de faire un coup d'État en France. Cette vidéo, elle est à 12 millions de vues, donc elle est très virale. Et Emmanuel Macron s'est plaint d'avoir appelé lui-même Facebook et que Facebook lui ait répondu, on imagine Laurent Soli, que c'était impossible de retirer la vidéo parce qu'elle n'allait pas à l'encontre des règlements de publication de Facebook.
Après, Stéphane, 12 millions de vues, ça ne veut pas dire 12 millions de gens qui l'ont cru.
Et ça, je paierais cher pour savoir quel est le ratio de gens qui croient que c'est vrai, mais en tout cas, ça en arrange pas mal.
Et Julie Charpentras, évidemment, on ne sait pas dire combien l'ont cru, mais il y a aussi ce jeu-là, c'est une sorte de mise en abîme, en fait. On regarde, on réplique, mais on n'y croit pas. Au milieu de gens qui y croient, comment on fait quand on est, vous, en charge de l'investigation numérique à l'AFP pour séparer le bon grain de livret là-dessus?
Alors, pour la première partie de la question, par rapport à savoir ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas, qui y croit, on nous pose souvent la question.
Bah oui.
Ça, c'est vraiment quasiment, on arrive à de la psychologie personnelle, c'est extrêmement difficile. Même chacun, on ne sait pas vraiment toujours ce qu'on croit un peu, ce qu'on croit vraiment. C'est extrêmement compliqué. Ce qui est sûr, c'est que quand c'est des choses fausses qui atteignent des niveaux de viralité pareils, de toute façon, il y a déjà forcément du dégât qui est fait. Le paradoxe et le piège, j'ai envie de dire aussi, de la façon dont fonctionne Internet et les plateformes en particulier, c'est que même si les gens n'y croient pas et qu'ils partagent pour dire c'est faux ou qu'ils commentent pour dire c'est faux, je n'y crois pas deux minutes, ils créent de l'engagement, donc ils donnent de la viralité et de l'exposition à ces contenus faux. Donc le piège est un peu multiforme en fait.
Ce que je trouve intéressant, on va retourner au standard dans un instant, je voudrais juste rebondir là-dessus, Gérald Bronner. Ce que ça nous raconte, c'est aussi un rapport au réel, évidemment, qui a été transformé. Mais je disais en plaisantant tout à l'heure dans l'introduction que dans mon algorithme, ça marche avec des labradors qui font de la balançoire. Ça dit aussi la réalité qu'on a envie de voir quand on y croit, qui est complètement différente de la vie et même de nos vies, en fait. J'ai l'impression d'être au début de Facebook quand on racontait qu'on avait une vie passionnante. Là, c'est encore mieux parce qu'on peut le montrer en vidéo.
Oui, mais donc, alors c'est vrai que les réseaux sociaux nous ont enjoint d'une certaine façon à exhiber les parties les plus belles de nos vies. vie et qui sont pas du tout représentatifs de nos vies. De sorte que d'ailleurs, des chercheurs ont montré que quand on consulte les réseaux sociaux, on est plus malheureux en sortant qu'en entrant.
Exactement.
Parce que,
mais le réel est tellement banal, il est tellement lisse.
Voilà. Alors le problème, c'est ça.
C'est pour ça qu'on y croit, ces vidéos-là, peut-être.
C'est que ces vidéos qui sont parfois très drôles, comme vous l'avez dit, Labrador, etc., ou des bébés qui se mettent à faire des choses beaucoup plus drôles que le réel, c'est que ce réel, si je puis dire artificiel, cette fiction, elle risque de devenir plus désirable que le réel à un certain moment. Supposez, par exemple, que les intelligences artificielles se couplent à la réalité virtuelle, qui nous isole du monde sensoriellement. Bien, on ne sait pas ce à quoi ça peut aboutir. Et puis, il ne faut pas oublier autre chose, pour reprendre l'exemple, en effet, de cette vidéo annonçant un coup d'État, c'est que même si les gens n'y croient pas, 12 millions de vues, ça peut préparer l'imagination. On sait quelquefois que la fiction, elle anticipe sur les croyances. Par exemple, avant de croire aux soucoupes volantes, etc., les gens ont d'abord lu des fictions sur les extraterrestres et l'invasion extraterrestre. Avant de croire qu'on pouvait parler avec les morts, par le spiritisme qui est devenu ensuite un grand mouvement culturel, on trouvait d'abord dans les légendes gothiques, les nouvelles gothiques du 19e siècle, la possibilité de ces discussions. Donc en fait, la fiction, elle précède parfois la croyance qui précède le réel. Donc tout cela n'est pas du tout anodin.
Voici Jean-David qui nous attend au standard. Bonsoir Jean-David.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir.
Allez-y Jean-David.
Oui, très bien. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat, je parle du documentaire, enfin du film capté par les Frères Lumière, avait, me semble-t-il, fait grand vent de panique et les gens sortaient de la salle. Voilà. Donc, je veux dire, d'une part, il y a effectivement la dimension de la prédominance du visuel dans nos vies. Donc, effectivement, avec l'essor de la perfection des images générées par l'IA, ça crée un souci. Et d'un autre côté, le cinéma... la progression des effets spéciaux ont fait en fait que les gens, lorsqu'ils sortent d'une salle de cinéma, ne sont pas persuadés qu'il y a des super-héros, des soucoupes volantes ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'on sait faire la différence parce que quelque part c'est sourcé, il y a une traçabilité, il y a une estampille qui dit voilà une œuvre de fiction. Et quelque part aussi, l'IA reste un outil et bien évidemment, il y a la dimension « j'ai envie de croire », je cherche un contenu, je ne regarde pas mes sources, je propage, je me fais une idée immédiate, et tout ça me semble d'une extrême confusion. Voilà, j'essaye un petit peu en vrac de jeter quelques idées.
Ben, en même temps, le vrac, Jean-David, merci beaucoup, montre à quel point effectivement la confusion finalement est chez chacun. À quel moment, est-ce que ça se marque dans le temps, ça, Julie Charpentras, à quel moment, quand on travaille comme vous le faites à l'investigation numérique, quand vous êtes une espèce de grand fact-checker, on comprend qu'il y a eu un shift en effet, et désormais on ne sait plus faire la différence entre une vidéo générée par l'IA et une vidéo dite normale.
Alors déjà, rappelons à l'évidence que la désinformation, la tromperie n'a pas attendu ni Internet, ni les réseaux sociaux, ni l'IA. Ça, c'est très clair. Mais voilà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a effectivement un changement d'échelle. Alors nous, ce qui nous avait beaucoup frappé dans notre pratique quotidienne, c'était quand l'IA générative a vraiment fait irruption dans le quotidien des gens. Donc avec ChatGPT début 2023, on s'est attendu pour nous, en nous posant plein de questions. Ça y est, l'IA est là, vous allez faire face à un apocalypse, un raz-de-marée. Puis on attendait l'apocalypse, il venait pas. On continuait à avoir au quotidien un flot continu de désinformation, évidemment, mais fabriqué à l'ancienne, ça va plus vite, c'est moins cher. Ça a vraiment pris de façon assez lente. Et on a vu une vraie accélération cette année, en 2025, c'est assez précis, au printemps, avec tout simplement la sortie de nouveaux logiciels plus sophistiqués. Donc en l'occurrence, un logiciel de Google, Google VO3, au mois de mai. Donc il y a eu un vrai saut à ce moment-là de qualité, de disponibilité et de crédibilité des vidéos qui étaient créées. OpenAI en a sorti un autre en septembre, Sora. C'est vraiment extrêmement rapide. Et le dernier, il y en a un nouveau de Google. Et on a encore un saut qualitatif avec là, effectivement, des vidéos qui sont quasi indétectables. Il y a encore quelques petites choses, quelques petits indices qu'on peut voir, nous, en regardant, et encore pas toujours, et on y reviendra peut-être, on a quelques méthodes, quelques astuces, mais rien ne vaut l'investigation de toute façon.
Ce que j'allais dire, c'est que vous avez des astuces, c'est votre métier, donc que vous avez vous, mais que le commun des mortels, quand
c'est
il voit les hélicoptères débouler sur les Champs-Élysées, eux ne les ont pas.
C'est ce que j'allais dire, et c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure dans la question, à savoir que l'impact du visuel, il est énorme, et que quand on voit de toute façon des images marquantes auxquelles on a envie de croire et qui sont très désirables de toute façon et qui sont là en plus fabriquées pour susciter de l'émotion, on ne va pas les regarder ces détails-là. On va d'abord réagir, on va d'abord accepter quelque chose qu'on va généralement considérer comme vrai par habitude.
Après, ce qui me fascine, Stéphane Jourdain, c'est que les géants de la tech et ceux qui inventent non seulement les IA, mais aussi tous ces logiciels-là, ils le savent très bien. Moi, je voudrais essayer de comprendre, peut-être que vous allez m'aider tous les deux, ce que c'est que la psyché de ces gens-là, qui connaissent les limites, qui savent les dangers, mais qui mettent systématiquement la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud, et encore, et encore, et encore.
Oui, et un certain nombre sont technosolutionnistes, donc ils pensent que l'IA va faire plus partie de la solution que du problème. Ce qui jusqu'à maintenant n'est pas complètement avéré, parce que l'IA, Julie, vous l'avez dit, les logiciels sont de plus en plus sophistiqués et ils sont de plus en plus simples à utiliser. Vous parliez des points de bascule. L'un des points de bascule, c'est le pape avec une doudoune blanche. On a été pas mal à se faire avoir. À l'époque, c'était Dali. C'était très compliqué de faire un prompt pour obtenir une telle image. Aujourd'hui, avec Nano Banana de Google, il suffit, vous pouvez parler et dire « je voudrais une image de Fabienne Santès avec un fond qui n'est pas celui de France Inter, etc. » Et vous aurez une image. Et il suffit de dire « changer la couleur des cheveux de Fabienne Santès » et ça va changer la couleur des cheveux. Donc c'est très très simple. Est-ce que l'IA fait aussi partie de la solution et plus de la solution que les problèmes ? Pour l'instant, ça n'est pas avéré, ça n'est pas ce qu'on voit.
Est-ce que l'IA fait partie de la solution, Gérald Bronner, à votre avis ? Est-ce qu'il y a un effet vertueux là derrière ? Ou est-ce qu'on est à deux doigts d'une bascule où il n'y a plus d'effet vertueux ?
Les deux en même temps, j'en sais rien, je vois pas dans l'avenir, c'est très compliqué. Justement, on est là face à une situation de très grande incertitude, comme il y en a rarement dans l'histoire des sciences. Parce que les grands spécialistes de cette question, ce que je ne suis pas du tout, moi je suis sociologue, font entendre des voix très différentes. Alors, d'abord...
Pardon de vous interrompre, mais vous êtes sociologue, donc c'est de la science. Et le sens de ma question derrière, c'est est-ce que la science est plus forte que ça, en fait ? Ou pas ? Ou est-ce qu'on est tous en train de marcher sur cette ligne de crête sans savoir de quel côté on tourne ?
En tout cas, ce qui est évident, c'est que nous ne pouvons pas, par décision, arrêter l'élan de l'IA. Puisqu'il y a eu un texte qui a été même signé par Sam Altman, etc. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, pour un moratoire sur l'IA. C'est vraiment une preuve d'impuissance. Je ne sais pas si ils y croyaient eux-mêmes, mais évidemment, il n'y a eu aucun moratoire sur l'IA. Le dentifrice est sorti du tube, en quelque sorte. Mais pour répondre à votre question, l'IA pourrait être une partie de la solution. Moi, je ne veux pas non plus noircir complètement le tableau, parce que c'est un outil formidable. Par exemple, j'ai publié dans l'Express la semaine dernière un texte qui montre, sur la base d'études scientifiques, que l'IA est la meilleure réponse à opposer, par exemple, aux conspirationnistes, aux anti-vaccins. C'est le meilleur taux de décroissance de la croyance qu'on observe. Alors en fait, le combat fondamental, le combat des combats, parce qu'il y a une façon de repérer, par exemple, les fausses vidéos, vous avez remarqué, c'est qu'elles sont extrêmement stéréotypées, ces vidéos, souvent. C'est-à-dire, quand vous en voyez 100, vous pouvez être sûr qu'ils se ressemblent, vous pouvez être sûr que ce sont des vidéos, en fait, d'IA. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle les MAD, les modèles autophagiques disorder, les désordres de modèles autophagiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les IA se nourrissent justement sur les productions des mondes numériques. Or, elles sont maintenant majoritaires à produire des choses dans le monde numérique. Donc, elles se nourrissent de leur propre production. Ce qui tend à stéréotypifier leur production, c'est pour ça que vous avez des centaines de d'amusements entre chiens et chats, etc., qui étaient au départ des vraies vidéos et qui deviennent maintenant extrêmement stéréotypées. Donc, en fait... Pour dire d'un mot ce que je crois, c'est que le combat des combats, c'est la qualité de l'urne, en fait. Puisque les IA, en fait, s'exercent sur l'urne numérique, il faut veiller à ce que cette urne ne soit pas empoisonnée de fausses informations. Or, il y a des acteurs, il y a des agents, il y a des gouvernements qui font tout pour que cette urne soit empoisonnée. Donc le bras de fer tendra d'un côté ou de l'autre, selon notre motivation, à ne pas laisser cette urne empoisonnée.
L'autre question, avant de retourner au standard que j'ai envie de poser, ça va nous amener à parler un petit peu de musique dans quelques petites secondes, c'est les gens qui regardent, ont-ils vraiment... En gros, est-ce qu'on arrive à un monde où ils disent bah, « Oui, c'est faux, je sais bien qu'un labrador ne berce pas un bébé, mais je m'en fous, c'est mignon. » Fin de l'histoire. Et il y va du labrador comme de, finalement, des hélicoptères qui envahissent Paris ou autre chose. Au fond, désormais, c'est pas grave. On s'en fout. Alors qu'il y a encore peut-être un an, cette question, elle pouvait pas se poser. Julie d'abord et puis Stéphane juste après.
Oui, c'est effectivement délétère. Ce qu'on nous dit souvent, c'est aussi « Oui, mais ça pouvait être vrai. » Si on vous dit, Mélanie n'a pas dit ça sur la
mais
France,
elle aurait pu.
Donc c'est pareil. Donc on en vient à ce qui est extrêmement délétère, et on parlait tout à l'heure du fait que pour pouvoir avoir un débat sain, il faut au moins s'entendre sur les faits. C'est un des soucis, c'est celui-là, effectivement.
C'est le socle commun gazeux. Un mot là-dessus, Stéphane ?
Oui, pour répondre à votre question, Variety a fait un sondage international il y a quelques semaines, selon lequel 37% des sondés déclarent qu'ils sont OK pour regarder des contenus IA, que ce soit du cinéma ou de la musique, si c'est aussi bien fait que les humains. Ça ne les dérange pas si c'est aussi bien fait que les humains. C'est quand même un ratio qui est énorme. Mmh. Et on voit dans la musique, 2025 est l'année où de la musique IA s'est hissée dans les tops, au top de charts américains, sans que les gens ne sachent qu'ils étaient en train d'écouter de l'IA.
Aussi bien fait que les humains. Je voudrais rapidement qu'on accueille Jean-Michel Jarre, qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On est content que vous soyez avec nous, parce que vous suivez ça de très près, vous en avez déjà beaucoup parlé. Vous dites, et comme tous les musiciens d'ailleurs, que l'IA peut être aussi une muse moderne, que vous avez utilisé l'IA, que vous l'utiliserez là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Moi, je me demande si dans la musique, Jean-Michel Jarre, on n'a pas passé dans le même cap et fait le même shift, c'est-à-dire que désormais, on ne sait plus dire si c'est un musicien ou une IA qui fait ce morceau. Et est-ce que vous dites, c'est la vie, ou est-ce que vous dites, au secours ?
Je pense d'abord qu'il ne faut pas confondre l'outil et l'usage. C'est-à-dire que la piraterie, elle existait avant l'électricité, elle existera après l'IA. Je veux dire que il faut pas nécessairement avoir une vision dystopique de la technologie. Je veux dire que c'est toujours la même histoire. Les peintres au début de la photographie faisaient des pétitions en disant c'est la fin de la peinture. Au début des Frères Lumière, les gens du théâtre disaient finalement ça va être la fin. On va plus aller voir les pièces de Molière au théâtre parce que le cinéma va le capturer d'une manière définitive. Et les gens resteront chez eux pour regarder. Les pièces de théâtre, on s'est aperçu qu'à chaque fois, c'est la technologie qui dicte les genres. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé la caméra, qu'on a le cinéma, etc., etc. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA, il ne faut pas être naïf non plus. Et je pense que plus on embrasse rapidement une technologie, plus on peut la, plus on peut éventuellement combattre les effets pervers, mais surtout on peut surtout l'utiliser comme une opportunité pour élargir son inspiration, son imagination.
Et je comprends, mais à partir du moment où quelqu'un peut vous dire, moi, si c'est aussi bien fait que de la musique faite par un musicien, au fond j'écoute une musique générée par l'IA, pour moi c'est pareil. Est-ce que encore une fois vous dites c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche désormais, ou est-ce qu'on se dit on est en train de perdre un terrain considérable ? Aujourd'hui, quand on écoute une plateforme, on ne sait pas ce qu'on écoute, en fait.
On ne sait pas si on écoute. Ça dépend. Oui, ça dépend de quoi on parle, parce que si vous voulez, ça fait quand même des années que, par exemple, dans la pop américaine, il y a des règles avec des formats qui sont utilisés par des producteurs et qui font de la musique au mètre. Donc, si vous voulez, l'IA ne changera pas ça. Maintenant, moi, j'ai aucune peur pour le prochain Miles Davis ou le prochain Gainsbourg, parce que, si vous voulez, ce qu'il ne faut pas jamais oublier, c'est que l'IA moissonne le passé. Et que ce qui fait la spécificité d'un artiste, c'est justement de se servir du passé, de son data analogique qui est sa mémoire, sa culture, son environnement, pour en faire quelque chose de spécifique. Donc la spécificité de la création, elle est, je dirais, pratiquement inversement proportionnelle au data qui est autour de nous. C'est pas parce qu'on a eu de plus en plus de... Si vous voulez, ce genre de discussion me rappelle un petit peu ce que disait le Vatican au moment de l'invention de l'imprimerie de Gutenberg, en disant attention, plus les gens vont avoir de livres, moins on va finalement contrôler le talent ou le, ouais.
Mais sauf qu'à cette époque-là, Jean-Michel Jarre, on continue à écrire des livres. La question que je me pose aujourd'hui, c'est si on continuera à écrire de la musique.
À ce moment-là, il y avait 90% d'illettrés, donc il faut pas.
Oui, non, mais ok. Mais je veux dire, l'invention de l'imprimerie a fait que, enfin, on a écrit des livres, on n'a jamais cessé d'en écrire. La question aujourd'hui est de savoir si on continue à écrire de la musique ou si on se dit, puisque l'IA sait le faire aussi bien, laissons-la faire. Et est-ce que ça,
Je reviens de Pékin. J'ai passé 10 jours pour rencontrer les grands acteurs de l'IA et notamment le Conservatoire national supérieur de musique de la ville de Pékin, qui est le correspondant chinois du Conservatoire national de musique à Paris. Et ils ont un département qui s'appelle musique, IA et neurosciences. Dans ce département, les étudiants sont à la fois avoir un très haut niveau de maîtrise d'un instrument, piano, violoncelle ou autre, et en même temps d'avoir des notions de codage et de mathématiques pour justement approcher l'IA comme une forme de nouveau solfège. Donc si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas... En même temps, il y a par exemple une société comme AIDA qui a déjà maintenant déposé des brevets sur le fait qu'ils vont pouvoir watermarker d'une certaine manière, si on peut parler cet anglicisme, pour justement repérer les fake news et repérer le vrai du faux.
On va parler.
Donc je pense que si vous voulez une technologie naissante va donner naissance aussi au contre-pouvoir ou aux contre-technologies. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter à avoir cette vision systématiquement dystopique de quelque chose
qu'on
embrasse encore mal.
Merci beaucoup, Jean-Michel Jarre. Merci vraiment. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Bien sûr, on va y venir à ce watermark. Moi, j'aime bien l'optimisme de Jean-Michel Jarre, Gérald Bronner. Mais la question que je me pose, et effectivement, pas forcément de dystopie, moi aussi, je trouve que c'est formidable à bien des égards. Est-ce que vous êtes déjà fait avoir sur une vidéo, par exemple? Est-ce que désormais, même vous, êtes capable de vous faire avoir sur une vidéo ou sur une musique que vous entendez, c'est super ce truc, et on découvre que finalement...
Sur la musique, sur des textes, probablement. Des vidéos, je suis pas certain, parce que précisément, moi je suis comme tous mes contemporains, je suis devenu très très sceptique sur toutes les vidéos qui me paraissent un peu trop spectaculaires, peut-être à tort, mais faut quand même dire que moi je suis plutôt technophile d'ailleurs. Si j'ai un biais, ce serait plutôt la technophilie, peut-être un peu comme Jean-Michel Jarre. Cependant, je suis peut-être un peu plus pessimiste que lui, parce que pour qu'il y ait, je pense qu'il y aura toujours, bien entendu, des artistes, talents qui continueront parce que c'est une passion, mais pour qu'il y ait un Miles Davis, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui se mettent sur la ligne de départ. Donc c'est une question statistique. Si on assèche l'urne qui va produire des talents, on aura beaucoup moins de virtuosité. C'est presque mécaniquement attendu, quoi.
Mais alors comment est-ce qu'on va s'en sortir, nous dit Yop sur WhatsApp, on ne pourra plus faire confiance désormais en aucune information. Ma crainte, c'est qu'aux prochaines élections présidentielles américaines, les partisans de Trump déclenchent des soulèvements beaucoup plus graves que l'affaire du Capitole, par exemple. C'est ce que nous dit Serge aussi sur WhatsApp, je vous les livre comme ils arrivent. Finalement, je ne crois plus en rien, je ne crois plus du tout en aucune information. C'est aussi ça le risque, Julie Charpentras. On ne croit plus à rien. Et votre rôle à vous, notre rôle à nous, collectivement, mais dans ce que vous faites à l'AFP, c'est précisément qu'on continue à croire à un certain nombre de choses qui nous arrivent.
Oui, alors non seulement c'est la conséquence, mais c'est même le but. Si on parle de désinformation au sens vraiment volontaire et malveillant du terme, le but, plus parfois même de faire croire à certaines infox et à certaines fake news isolées, c'est de créer un chaos informationnel dans lequel plus personne ne va croire quoi que ce soit. C'est le but des campagnes de désinformation, de propagande qui ont été attribuées par exemple à la Russie. C'est précisément pour arriver au fait que plus personne ne croit rien, ce qui est vrai, et croit ce qui est faux et ne croit pas ce qui est vrai.
Quand vous êtes face à une vidéo, est-ce que désormais, aujourd'hui, il y a des moments où vous dites « je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux, donc j'y vais pas ». Est-ce que vous vous êtes planté, parce que maintenant, avec le recul, vous savez qu'il y a eu un faux, vous l'avez pris pour un vrai, maintenant les outils pour s'en rendre compte sont différents, ça arrive ça ou pas?
Alors, deux cas de figure. À l'AFP, on est des fact-checkers, mais on est aussi l'AFP. Donc effectivement, ce qui se passe maintenant comme réflexe pour le service vidéo, par exemple, quand il s'agit d'authentifier une vidéo qui n'a pas été tournée par l'AFP, qu'on en récupère et qu'on doit authentifier, typiquement des images amateurs ou des choses comme ça, question qu'on ne se posait pas avant, c'est est-ce qu'elle n'a pas été créée de toutes pièces par IA? On a eu un exemple il y a quelques mois, il y avait une vidéo qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, censément montrer une explosion devant la prison des Devine en Iran. C'était d'autant plus crédible qu'elle était de mauvaise qualité parce que c'était censé être une vidéo de vidéosurveillance. Donc d'autant plus difficile à détecter. On se doute qu'elle va être en noir et blanc, qu'elle va être de mauvaise qualité. Pas mal de médias se sont fait avoir. Il y a eu un gros débat à l'AFP. En l'occurrence, on a pris la bonne décision de ne pas la diffuser. Je cite cet exemple, mais très honnêtement, de mémoire, c'est pas pour absolument défendre ma maison, mais j'ai pas de souvenirs récents où on s'est trompé. On a plutôt été prudent. Et après, effectivement, une fois qu'il a été constaté que cette vidéo, il y avait de forts doutes, elle est passée entre les mains des fact-checkers. Et là, on a décortiqué et on a pu produire une vérification précise.
Est-ce qu'on va vers ce moment où on sera débordé, en fait, parce que vous n'aurez plus le temps de fact-checker chacune des vidéos qui arrivent? Est-ce que c'est déjà le cas?
C'est déjà le cas depuis longtemps. Il faut vraiment avoir absolument conscience, et on le sait quand on se lève le matin, quand on est fact-checker, que de toute façon, les fact-checkers, aussi nombreux soient-ils, ne résoudront jamais le problème de l'information et de la désinformation. Ce chaos, ça, c'est pas possible. En revanche, tout à l'heure, Gérald Brenner parlait d'urnes, là où, par exemple, les chatbots s'alimentent sur Internet, etc. Face à cette inondation, face à cette déferlante, qui date aussi d'avant l'IA, de toute façon, nous, on ne peut pas, c'est strictement impossible de tout vérifier. Donc déjà, on fait évidemment une sélection selon un certain nombre de critères, de viralité, de dangerosité potentielle, etc. Mais l'idée du fact-checking, de l'information en général quand elle est bien faite, et du fact-checking, c'est d'occuper le terrain et justement de faire en sorte que l'urne soit moins remplie uniquement de désinformations, mais aussi de bonnes infos.
Un mot avant de retourner au standard, Stéphane, le fameux watermark dont parlait Jean-Michel Jarre, l'idée de se dire on va estampiller ce qui est de l'IA, comme ça on saura de qui on parle, mais enfin, c'est l'antithèse de ceux qui sont dans les plus malveillants, puisque le but du jeu, justement, c'est qu'on s'en rende pas compte. Donc
oui,
en fait, on c'est un peu le diable qui se mord la queue là-dessus, non?
On voit bien dans le domaine musical qu'on n'arrive pas à estampiller les morceaux IA, alors que ça, on pourrait imaginer que ce soit assez simple de la part des plateformes de ouais. préciser, même en tout petit, que c'est de l'IA.
C'est ce qu'on disait, elle pourrait le faire, il y a une volonté de ne pas le faire.
L'AFP a essayé de déterminer si un des morceaux qui était en première place des charts country était de l'IA. Elle a été incapable de certifier à 100% que c'était de l'IA.
Les détecteurs, justement, on parle de l'IA qui peut aider à détecter l'IA, les détecteurs n'ont pas su répondre, en fait.
Donc c'est très difficile.
Donc il y a de l'IA pour détecter de l'IA qui détecte de l'IA. On va finir avec 5 IA diverses et variées pour être sûr de ce qu'on fait. Après, l'une des solutions, Gérald Brenner, et c'est peut-être presque réjouissant, c'est de se dire que finalement, peu importe ce que raconte la vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de questionner le contenu. Donc ça veut dire que cette histoire est en train d'exercer notre esprit critique à fond, en fait, et que ce qui nous sauvera la vie, précisément, c'est de continuer à exercer notre esprit critique.
Si nous ne cédons pas à la spontanéité mentale
et à la fainéantise,
et à nos désirs, oui, mais justement, c'est aussi un bras de fer à l'intérieur de nos cerveaux qui est en train de s'organiser. Hein, parce que sur l'estampille, prenez par exemple les vidéos Sora 2, dont on a parlé, des IA vidéo très très bluffantes, eh bien, on peut retirer en fait l'estampille Sora, certains le font, et il y en a même qui ajoutent l'estampille Sora sur des vraies vidéos. Donc vous imaginez la confusion totale. Mais j'ai envie de dire que le problème est encore plus profond que ça. Parce que là, on n'a pas parlé de ce qu'on appelle l'astroturfing, par exemple, l'influence des opinions par toute une série.
C'est parce que c'est l'astroturfing.
C'est une influence, disons, insincère des opinions par des agents, avant c'était des humains, maintenant c'est des agents artificiels, qui sont passés pour des comptes réels sur les réseaux sociaux, qui ont l'air très bien, ils peuvent pendant un an, deux ans, ces agents dormants, et puis tout à coup, à l'occasion de l'invasion, par exemple, de l'Ukraine par la Russie, c'est très documenté, ils se mettent à popper. Et puis, il y a aussi cette confusion qui est créée dans notre rapport avec les IA qu'on anthropomorphise. Il y a 30% des jeunes Américains qui trouvent que c'est aussi satisfaisant d'échanger avec les IA qu'avec des vrais êtres humains.
Exactement. Ouais. Aussi bien qu'avec les humains, meilleure musique qu'avec les humains, meilleure vidéo qu'avec les humains, meilleur auditeur, c'est Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour votre émission. Ma question apporte justement sur ce sujet, pardon pour l'anglicisme, le watermark. Quelles seraient les possibilités, à la fois techniques et légales, pour mettre en œuvre une obligation d'identification de la source IA lors de la production? Pas pour identifier a posteriori, mais pour obliger les outils de production d'IA à mettre une information disant « ça a été produit pour de l'IA ». Et ce qui inspire cette question, c'est notamment les lectures que j'ai pu avoir de romans de science-fiction, d'Isaac Asimov, ces lois de la robotique qui protègent l'humanité et qui sont intégrées directement dans tous les robots.
Qui peut répondre à cette question, Julie Charpentras?
Alors, pas en détail, mais je vais faire peut-être une réponse très courte. Ben, il faudrait que les créateurs, les plateformes et les logiciels d'IA soient d'accord, en fait. Mmh. Ça voudrait dire des watermarks inviolables d'entrée, on l'a dit.
Donc ça s'appelle un filigrane parce qu'on est en train de se faire engueuler là sur WhatsApp. Donc voilà. Mais on a bien
les
compris,
ouais. Ce serait effectivement de mettre dans les métadonnées des choses qui prouvent de façon certaine que c'est de l'IA. Alors, il y a plein de choses techniques qui me dépassent, mais encore une fois, il faut la bonne volonté, la participation de tout le monde. On n'en est pas tout à fait là, en fait.
Et c'est pas du tout l'ambiance aux États-Unis et dans la Silicon Valley. Ils ne veulent aucune régulation et il est hors de question qu'on leur impose ça. C'est dans l'IA Act, hein, watermark, de mettre un filigrane sur les contenus IA, mais on est tout petit par rapport à...
Et ce qui est fascinant quand on les écoute parler quand même, c'est qu'ils ont bien conscience de tout ça. Je crois que c'est, je ne sais plus lequel disait, c'est Musk qui dit il y a 5 à 10% de chances pour que quelque chose se passe mal, en fait, avec l'intelligence artificielle à son excès comme ça. Comment il s'appelle notre ami d'Anthropique, j'ai oublié
Dario
son nom.
Amodei.
Dario Amodei dit il y a 25% de chances pour que ça se passe mal. Donc c'est un peu comme si on avait intégré l'espèce de modèle d'une explosion civilisationnelle. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, Gérald Bronner, ou pas?
En tout cas, ces acteurs-là dont on parle, ils sont souvent plus ou moins liés à ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire la volonté de dépasser nos conditions biologiques par la volonté humaine, et notamment technologique. Ils en sont à vouloir télécharger notre conscience dans du silicium pour dépasser, pour s'affranchir des conditions biologiques. Donc effectivement, qu'ils engagent notre civilisation dans une course en avant, en réalité.
Est-ce que, et ce serait la dernière question, le monde de demain, c'est un monde de vidéos, d'informations, de sons qui sont générés par l'IA, dont on a du mal à savoir si elles sont vraies, si elles sont fausses, ça c'est pour une grosse partie de la population, et puis l'autre qui serait quasiment garantie sans IA en fait, et c'est là qu'on ferait la différence entre ces deux mondes, avec un abysse au milieu, où ça n'a absolument aucun sens, tout le monde va plonger la tête la première, et tant mieux pour ceux qui arrivent à surnager et comprendre ce qui est vrai ou ce qui est faux. Est-ce que c'est comme ça que ça se résume ou pas?
Moi personnellement, je fais partie des sociologues qui ne croient pas du tout aux lois de l'histoire, donc je suis absolument pas plus compétent qui que ce soit pour répondre à cette question. Je crois simplement qu'on est vraiment à un carrefour civilisationnel. Les mots ne sont pas trop forts. Mmh. Peut-être que jamais notre vie collective a été aussi incertaine. Et l'IA, c'est un des paramètres, en effet, qui rend cette vision du futur très incertaine.
Bon, écoutez, incertaine, mais quand même joyeuse.
Essayons.
Tout, voilà, on n'est pas obligé de tomber tête la première. Je vous remercie tous les trois chaleureusement. La question des petits bateaux, très rapidement, c'est celle de Prune. Elle a 10 ans.
Je voudrais savoir ce que deviennent les petites parties de notre corps qui sont retirées lors d'une opération chirurgicale.
Et la réponse dans 3 minutes.